Bonsoir Richard Zénith.
Bonjour.
On est avec vous pour vraiment alors parler un petit peu, parce que nous n'aurons qu'une heure pour aborder l'œuvre-vie de Pessoa, sortie aux éditions du Seuil, qui est une bibliographie extraordinaire, passionnante, mais une heure ne suffira pas à relater l'extraordinaire travail que vous avez réalisé. Ma première question est la suivante. Est-ce que vous pensez que Fernando Pessoa avait un rapport poreux au réel?
Un rapport
poreux, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez que le réel transpirait sur lui et que du coup, comme ça, indirectement, naturellement, il transformait aussi des choses du réel comme une éponge sans s'en rendre compte et que finalement ça participait de son œuvre sans réellement conscience de cela? Est-ce qu'il avait ce genre de rapport-là au réel, selon vous?
Ouais. Fernando Pessoa était toujours très insatisfait avec le réel, avec ce qui est ici dans le monde. Et il était toujours en train de transformer le réel, terrain de ce monde, dans d'autres choses. Et l'inverse est aussi vrai. Donc, les choses de son imaginaire et les choses qu'il rêvait, il voulait convertir ces choses dans la réalité. Il faisait ça en écrivant, non? Et donc, il créait des objets. Toutes les choses, les objets, les œuvres d'art, ses écrits, poèmes et textes en prose, les choses qu'il rêvait, qu'il imaginait. Et en écrivant cette biographie, j'ai vu ça, beaucoup plus d'intensité. Cette façon de Pessoa de travailler sur le réel et de construire, déconstruire la réalité pour après la refaire aussi.
Et votre livre se lit, je le disais tout à l'heure en loge, comme un roman d'aventure. Vous arrivez en fait à nous raconter cette histoire avec mille éléments. Parfois, on s'arrête sur des indications qui semblent presque psychologiques. En même temps, vous nous plongez dans des contextes extraordinaires. On est dans les années 20, on est au Portugal, on est aussi à Durban, en Afrique. Mais vous nous racontez un contexte politique, social, économique. Et on traverse mille événements très forts. On le disait, votre éditeur disait tout à l'heure aussi, on croise même Gandhi. Il y a vraiment un foisonnement. Pourquoi était-il important pour vous, comme ça, de passer du temps à nous expliquer où nous sommes?
Quand j'ai commencé, c'était très difficile d'arriver à qui était Fernando Pessoa. Pessoa est fameux pour ne voir pas beaucoup de vie. Parce que c'est vrai qu'il a vécu 9 ans de son enfance en Durban, en Afrique du Sud, parce que son père est mort quand il avait 5 ans, sa mère s'est remariée quand il avait 7 ans, et il est parti avec la mère en Afrique du Sud. Donc il avait ses expériences de voyage quand il était petit, mais après il est retourné à Lisbonne avec 17 ans, et après il ne bougeait pas beaucoup, parfois au Portugal, mais en général il était toujours à Lisbonne. Il ne s'est pas marié, il n'avait pas une vraie profession, écrivain, mais il a gagné de l'argent avec ça. Il était toujours célibataire. Et donc, apparemment, il n'a pas beaucoup de vie. Et je voulais prouver le contraire, non? Qu'il avait sa vie imaginaire, que le livre raconte, mais aussi ses amis, ses contacts avec les familiers, et tous les... lui aussi essayer d'ouvrir des entreprises, d'être un businessman. Il a toujours fallu. Mais tout ça, c'est très fascinant. Et enfin, ça fait partie de sa œuvre vie, non, qui est comme le titre du livre. Mais quand j'ai commencé, pour moi, c'était une façon d'arriver à Pessoa, était de voir bien les lieux et les temps qu'il a occupés. Et donc, il y a pas mal de contextualisation dans le livre. Hein. Donc, je raconte un peu comme était Durban, quand Pessoa était là. Et en fait, quand Pessoa arrive en 1896, Gandhi était là et commençait, Gandhi commençait tout son mouvement pour les droits des Indiens qui étaient à Durban. Durban avait 25% d'Indiens, 25% de Zoulous et 5% des Européens, surtout anglais. Et une société très ségrégée, mais Pessoa était conscient de ces autres gens, non, qui des autres ethnies, des couleurs, autre façon de parler, et donc un certain cosmopolitisme là que Pessoa lui a commencé à être un cosmopolite lui. Et après, au Portugal, il était, comme Pessoa est né en 1888, il était sous une monarchie qui était déjà pourrie. Et Pessoa, lui, faisait partie comme un jeune homme du mouvement républicain. Et la République est venue en 1910, mais c'était une République assez dysfonctionnelle. Et après, plus tard, il y avait une dictature militaire, après un dictateur de Salazar. Et donc, Pessoa était toujours très attentif à tout ce qui passait et politiquement, socialement. Et tout ce qui passait, bien sûr, qui était fondamental pour sa formation comme personne et comme écrivain. Donc, je parle pas en trop de détails, mais le livre est aussi un peu petite histoire, non, de Pessoa, mais aussi ça raconte un peu l'histoire de l'Afrique du Sud à ce moment-là. Aussi, la guerre de Boer est éclatée quand Pessoa était là, et après l'histoire de Portugal dans les années de la vie de Pessoa, et même un peu de l'Europe, non,
avec oui,
les mouvements de fascisme et tout ça.
Oui, oui, puisqu'il y a on croise un crash boursier, la revue de Joséphine Baker aux Champs-Élysées. On croise Shakespeare, on croise Francis Bacon dans votre livre. On croise finalement un dynamisme intellectuel assez prégnant, comme vous le dites. Et on voit bien que ce n'est pas seulement au Portugal. Puis on croise de la musique aussi, beaucoup, du jazz, du charleston.
Ouais.
Et donc on imagine bien une ambiance. Et donc en fait, on plonge avec vous littéralement dans ce livre, dans une époque et aussi dans un état d'esprit d'un Pessoa qui apparaît surprenant et finalement très libre. Et c'est une des choses qu'on découvre avec délectation dans votre écriture qui est très légère. On a l'impression que vous nous parlez comme si on était au coin du feu en train de boire un brandy avec Pessoa et vous. Et que vous nous racontez ça comme ça de façon très légère. Vous nous racontez que finalement c'était un homme assez libre qui défend la liberté même dans son écriture. Vous parlez d'un journal qui s'appelle La Révolte qu'il va écrire. Et donc... Ça, c'est une des grandes surprises de Pessoa, c'est la liberté avec laquelle il va se mouvoir tout au long de sa vie.
Bien, c'est intéressant que vous dites ça, parce que je savais des jours, toujours, et après, que Pessoa donnait beaucoup d'importance à la liberté. Mais c'est une des choses qui m'a frappé, écrire la biographie, non, de passer tellement de... plusieurs années avec Pessoa, qui cette insistance sur la liberté, surtout personnelle, non? Et Pessoa ne voulait pas faire partie d'une association, d'un groupe. Il était toujours assez solitaire. Il avait de la solidarité parfois, mais il était toujours fiel à soi-même et ce qu'il lui voulait faire. Ouais. Et je voulais dire aussi que vous avez parlé de bien de toute cette ambiance de la musique, jazz et des mouvements artistiques et tout ça qui il y a dans la biographie. Je cherchais de écrire d'une façon cinématographique et visuelle, non, que le lecteur peut voir Pessoa dans tous ces espaces et voir l'Afrique du Sud où Pessoa était au Portugal. Ouais.
Oui, vous parlez de ça. Hein. Dans votre livre, vous dites que vous êtes en train vraiment de réaliser une écriture cinématographique et aussi une écriture cartographique. Pourquoi cartographique ?
Bien, je voulais cartographier la vie imaginaire de Pessoa et la vie imaginaire qui comprenait toutes ces hétéronymes qu'il a inventés, non? Pessoa est très connu pour avoir écrit sous plusieurs noms. En fait, il a inventé dizaines des personnalités littéraires et ça a commencé quand il était tout petit. Et pour Pessoa, l'acte d'écrire est intimement lié à l'hétéronymie. Qu'est-ce que c'est l'hétéronymie? Ces hétéronymes, pour Pessoa, n'étaient pas seulement pseudonymes, parce que ce n'était pas seulement le nom qui était différent. Pessoa invente des personnages qui pensent d'une façon qui différente, restons d'une façon différente, ont des idées sur la religion, la politique différente. Les hétéronymes discutent entre eux. Pour les hétéronymes principaux, Pessoa a inventé des biographies. Et c'est un truc fascinant, qui est un phénomène continue pendant toute la vie de Pessoa.
Oui, alors bon, cette hétéronymie, bien sûr, elle prend beaucoup de place dans cette cartographie, mais ça veut dire que vous, pour pouvoir observer le travail de Pessoa, ses écritures en général, vous aviez besoin de créer un univers pour vous, visuel, cartographique, comme un espace, comme une ville, comme un pays.
Oui, disons que il y a ce Fernando Pessoa qui a laissé plus de 25 000 papiers dans une grande malle quand il est mort. Il a publié relativement peu pendant sa vie, donc il a laissé tous ses inédits. Et c'était un écrivain très volcanique qui pas très organisé. Et donc, il y a ce tas des écrits qu'il a laissés et qu'il a attribués à dizaines des hétéronymes. Et donc, quand on plonge dans ces archives, c'est vraiment comme un marin, un navigateur. Et donc, il faut cartographier pour aller découvrir et comprendre tout ça et organiser tout ça. Ouais.
Parce que c'est une enquête, et c'est une enquête incroyable.
Ouais.
Ce que vous livrez, vous, en fait, vous nous emmenez avec vous dans votre enquête. Alors, vous utilisez souvent des formules comme « je soupçonne »,« je crois », »,« il me semble », »,« peut-être ». En fait, il y a tout le vocabulaire de l'hypothèse. Et puis, on a l'impression que vous réfléchissez en même temps que le lecteur lit avec vous.
Oui, oui, c'est bien dit. Parce que, bien, j'ai un ami qui est biographe et il m'a dit, il m'a fait un conseil de, qui pour, avant de commencer à écrire ma biographie, qu'il fallait avoir une thèse, une idée que je voulais prouver. Et il a écrit des biographies comme ça, mais j'ai rejeté cette idée parce que je ne voulais pas des partis pris des idées fixes avant de commencer la biographie. Je voulais découvrir moi-même qui était Fernando Pessoa, et donc je me mettais dans la position aussi du lecteur et donc parfois je suis là pas très souvent mais quelquefois je découvre quelque chose et je parle de en première personne et pour communiquer au lecteur qui pour moi aussi c'est un voyage, non?
Ah oui.
Et alors oui, hein, parfois je dis je suppose, il semble que ça pour montrer qui admettre qui il y a certaines. On n'a pas toujours des certaines à 100%, certitudes à 100%. Oui, voilà.
Ah oui, mais alors, du coup, on est vraiment avec vous dans cette aventure, c'est dans cette plongée. C'est vrai que c'est une belle image. Par exemple, c'est vrai qu'il y a un moment donné où vous racontez, vous tombez sur une lettre. Pessoa serait membre d'un groupe. Cette lettre porte la mention de Londres. On est en 1906. Et donc, vous racontez, on est avec vous, on est très content en se disant oh, « on a découvert un truc fou !» Et puis, en fait, vous dites « ah non, ben, en fait, c'était fictif. » Et donc, là, on mesure... Alors, il y a une question qui hante ce livre aussi. Et donc, on mesure à quel point il est difficile de vraiment cerner l'œuvre de Pessoa. C'est que finalement, il joue. Il joue tout le temps. On ne sait pas exactement à quel moment il n'utilise pas des ressentis à des fins littéraires où il dit vraiment qui il est. Enfin, il y a vraiment comme ça une ampleur que vous présentez en disant que votre plus grand travail, c'est celui de déchiffrer le moment où on passe à la fiction.
Le moment que ?
Le moment où on passe à la fiction. Le moment où Pessoa joue, invente, mais vous dites, c'est pour ça que je parlais de poreux, de cette histoire d'éponge, parce que on a vraiment la sensation que ça a été un travail de titan d'essayer de comprendre qui était Pessoa au milieu de ce grand océan semi-fictif, semi-réel, on ne sait pas.
Oui, Pessoa en fait était un grand joueur, il jouait toujours, et quand il était enfant, il y a beaucoup de pages sur son enfance dans le livre. Il, comme les autres enfants, il aimait jouer. Mais nous, la grande majorité des gens arrivent 18 ans, 20 ans, et on perd cette capacité de donner la vie à des choses fictive. Alors personne n'a pas perdu cette capacité. En fait, il est très cérébral, il aimait beaucoup la philosophie, très rationnel, mais en même temps, il était toujours un enfant pendant sa vie, et ça se voit aussi comme elle a refusé d'avoir des responsabilités. Elle ne voulait pas créer une famille, avoir un job qui exigeait son temps, et elle voulait être toujours libre comme un enfant. Et donc, c'est difficile vraiment de distinguer parfois ce qui par Pessoa était vrai ou pas vrai. En fait, pour Pessoa, peut-être il n'y avait rien qui était vrai avec le V majuscule. Il y avait des vérités, mais ces vérités avec le V petit se changeaient. Et Pessoa ne se contentait pas avec rien, avec une idée. Il voulait toujours aller plus loin. Et donc, il a publié un texte en 1915. Il avait à ce moment-là 27 ans, et où il disait qu'un vrai intellectuel a le devoir de changer d'opinion plusieurs fois pendant une journée. Et Pessoa faisait ça, non? Elle était toujours en train de penser et prouver une chose, et après penser d'une autre façon et prouver des autres choses. Il faisait ça sous son nom ou alors sous les noms de ses hétéronymes. Et les hétéronymes, comme j'avais dit, ils discutaient entre eux. Ils n'étaient pas de la même opinion très souvent. Ouais.
Oui, parce que là, vous le dites dans votre livre, vous citez toutes ces phrases où il dit que finalement, la phrase, c'est l'unique vérité pour lui. Et puis finalement, il doute aussi de ses doutes. Donc, c'est vraiment un personnage capable d'être aussi profond que léger, drôle. On découvre qu'il a beaucoup d'humour. Il écrit des devinettes. Ouais. Quand il est enfant, il crée le chevalier de passe. Il s'envoie des lettres.
Ouais.
Donc, et quand il est un homme, il est très aimé des enfants. Il a des rapports très joyeux avec les enfants, tout en s'intéressant à tout. Vous racontez dans votre livre qu'il aura écrit sur tout. Ouais. Donc on a vraiment l'impression que c'est une personne qui réfléchit tout le temps et qui ne peut pas s'empêcher d'écrire.
Oui, c'était un monstre, non, qui écrivait comme nous...
comme nous parlons, comme oui. Nous respirons.
Oui, oui, exactement. Ouais. Et il prenait quelques bouts de papier qui... pour écrire des idées pour une histoire ou des vers pour un poème, des idées pour un essai, et était toujours constamment à écrire. Mais écrire aussi des choses nouvelles, non? Et c'est pour ça que son œuvre est assez fragmentaire. Il y a des centaines de très beaux poèmes achevés, mais aussi beaucoup des œuvres impossibles d'achever, comme le livre de l'intranquillité, qui est son œuvre plus connue. Que Pessoa n'avait même pas un cahier dédié à le livre d'intranquillité. Il a laissé plus ou moins 500 textes, morceaux, entre les 25 000 papiers de son archive, et seulement 47 ans après sa mort, est sortie la première édition en portugais du livre de l'intranquillité en 1982. Et donc, Pessoa pensait, écrivait, et en tout ça, c'est important de rappeler aussi qu'il sentait toujours les choses très fort. Il était très rationnel, mais c'est vrai aussi que quand il écrit sous son nom, Fernando Pessoa, ou sous le nom d'un hétéronyme comme Alberto Caeiro, Ricardo Reis ou Álvaro de Campos, il toujours ressent complètement, il est complètement présent dans l'acte d'écrire. Mais quand cet acte finit, alors il pense et ressent d'une autre façon. Et donc, c'est difficile ou impossible de dire ce que Pessoa croyait, non? Pessoa, on n'avait pas encore parlé, mais il était très intéressé dans tout qui était spirituel. Toute sa vie, il cherchait dans des religions traditionnelles, mais surtout dans les mouvements de religion ésotérique, le culte, Kabbale, Rose Croix, maçonnerie, et il a lu énormément sur ces mouvements, mais on demande mais alors qu'est-ce qu'il croyait? Et je m'en souviens une fois, j'ai une amie brésilienne, elle est d'une famille catholique qui ne pratiquait pas le catholicisme, mais elle si, non? Et elle a étudié la théologie. Une fois, je parlais avec elle et je parlais de pour les juifs, comme il n'y a pas une idée très claire sur la vie après la mort. Et elle me disait, ah oui, c'est très intéressant, qui pour eux, c'est le Dieu, c'est maintenant dans cette vie qui ne s'importe pas beaucoup de la vie après. Et après, je parlais du bouddhisme et l'idée de réincarnation. Et elle disait, ah oui, c'est fascinant ça, qu'il y a le... on continue pendant plusieurs vies à se perfectionner. Hein. Et enfin, mais moi, je savais qu'elle était catholique, qu'elle va toujours à la messe. Et je dis, mais Maria, qu'est-ce que tu crois? Et elle m'a répondu, tout! Et quand elle a dit ça, j'ai compris que c'est Fernando Pessoa, non? Que Pessoa, il croyait en tout, mais en même temps, il croyait en rien, non? C'est-à-dire, il était en voyage permanent et a découvert avec beaucoup de passion des idées philosophiques, religieuses, aussi de s'est intéressé en tout type de littérature aussi littérature bien sûr européenne, mais aussi il achetait des livres de la littérature d'Asie et des autres continents, et il était ouvert à tout. Il ne se fermait à rien.
Et finalement, ce que vous racontez dans ce livre, c'est que ça va être un petit peu au détriment de sa vie personnelle, qu'il met un peu de côté. Bon, il y a des passages qui sont assez drôles hein, dans votre livre, sans peut-être le vouloir, parce que vous dites, c'est un peu comme un aristo qui ne veut pas se salir les mains. Vous dites il a de grandes ambitions, mais il est très apathique, donc finalement il va pas les réaliser, comme si il était déjà tellement vivant naturellement, juste avec tout ce qu'il lit, tout ce qu'il découvre, tout ce qui l'intéresse, on dirait que ça suffit juste d'être.
Oui, je pense que Pessoa était très conscient que la réalisation d'un rêve est toujours moins que le rêve. Et donc, il voulait rêver en continuation. Il avait 1000 projets Il y a des volumes publiés qui consistent seulement de ces projets. Non, projets pour vos livres de théâtre, de poésie, des nouvelles, des essais, etc. etc. Et donc, pour Pessoa, le secret de la vie était de maintenir vivre le rêve. Et bien, le livre d'intranquillité est un manuel de rêveur, non? Et c'est Bernardo Suárez, toujours qui rêvait, non? Il a réalisé, c'est beau, ça peut être intéressant, mais moi, il faut que ce soit l'acte de rêver.
Hein. Oui, d'ailleurs, vous parlez du rêve dans votre livre, et lire votre livre donne incroyablement envie de relire les livres de Pessoa ou de ses hétéronymes. Et il y a une chose qui est incroyable dans votre livre aussi, c'est qu'on découvre qu'il y a eu une femme hétéronyme. Et pas n'importe quelle femme, puisque cette femme malade va écrire un seul texte qui est une lettre d'amour bouleversante.
Ouais.
Et donc, d'abord, selon vous, pourquoi tout d'un coup une femme? Et pourquoi c'est par ce biais-là qu'il rentre dans cette déclaration d'amour?
Oui, cette femme s'appelait Maria José, et c'est en fait le dernier hétéronyme. On utilise le nom hétéronyme un peu abusivement.
Oui, parce que là, il lui invente pas de vie, en fait. Hein.
Enfin, oui, parce qu'il y a trois hétéronymes principaux avec Alberto Caeiro, Álvaro de Campos et Ricardo Reis, qui surgissent en 1914. Et pour ces hétéronymes, il y a des biographies, Pessoa aussi fait des cartes astrologiques pour ces hétéronymes. Et ils sont vraiment très différentes l'un de l'autre et de Pessoa soi-même. Et Maria José, comme vous avez dit, est auteur d'une seule lettre, une longue lettre d'amour pour ce monsieur travailleur qui passe par sa fenêtre chaque jour. Elle est 19 ans, bossue, avec une arthrite très très, très forte qui ne bouge pas et tuberculeuse. Donc, c'est
il l'a gratiné quand même. Hein?
Oui. Et donc, c'est pathétique, non, comme figure. Et donc, sa vie est de penser, d'aimer ce monsieur Antonio. Et c'est curieux qu'Antonio, c'est le deuxième prénom de Fernando Pessoa, Fernando Antonio Pessoa. Et pourquoi Pessoa a écrit cette lettre? Bien, la lettre, elle déclare son amour, mais après, elle raconte sa triste histoire, mais elle dit qu'elle n'en verra jamais la lettre, parce qu'elle sait que c'est impossible, elle pourrait seulement rire d'elle, non? Et il y a beaucoup des articles des spécialistes qui théorisent la raison de cette lettre. Moi, j'ai ma théorie dans le livre aussi, mais je pense que bien, peut-être il vaut mieux lire le livre.
Oui.
Pessoa voulait aimer, je pense qu'il n'avait pas la capacité de la même façon qu'il était très intéressé dans tous ces mouvements religieux et ésotériques etc. Et je disais qu'il croyait en tout, mais en rien, non, qu'il, parce qu'il ne, il ne se donnait complètement à rien. Et comme ça aussi, il ne réussissait pas à se donner à une personne, non, amoureusement. Et je pense que la lettre, il y a des autres raisons, mais je pense que sûrement c'était aussi là une expression de ce désir.
Oui, parce que quand on vous lit, on voit bien que finalement, ces hétéronymes, ou en tout cas ces prête-noms, il s'en sert pour raconter ce qu'il imagine ou ce qu'il aimerait vivre. Donc, effectivement, vous partez de cette théorie-là, mais on reste quand même en suspens,
ouais,
sur tout d'un coup la création d'un personnage féminin dans toute son œuvre, puisque vous dites que des personnages, il en crée quand même plus de 1000 au total sur toute sa vie, enfance incluse,
ouais,
ce qui est vraiment assez unique. Et d'ailleurs, à propos, voilà, de ses multiples personnalités, comme s'il éprouvait en écrivant et que peut-être ça lui suffisait. Vous-même, vous êtes assez drôle quand vous dites que c'est presque les frères et sœurs Brontë à lui tout seul.
Ouais, ouais.
Vous-même, vous avez en fait des clins d'œil assez drôles sur Pessoa. Comment ça s'est passé, ça? Est-ce que, à force de plonger dans ses écrits, vous avez fini par prendre de la distance en vous disant, mais là, en fait, il vaut mieux sourire, tellement c'est énorme.
Bien, j'ai pris une distance aussi du biographe pour voir avec une certaine objectivité et parce que c'est facile de se passionner pour quelqu'un et après disparaître dans ce monde de ce personnage, mais sans la capacité de voir, de raconter. Pour voir bien, je pense qu'il faut prendre une distance. Et j'admire beaucoup Fernando Pessoa, énormément. Mais dans la biographie, je parle aussi des certaines facettes sympathique peut-être. Par exemple, il y avait une phase de misogynie qui, après, elle a surmonté ça. Et comme elle a été créée à Durban, une société très ségrégée, c'était presque impossible qu'elle n'était pas un peu raciste, au moins passivement. Et chez Pessoa, était effectivement passivement, mais ça existe. Il y a des choses qu'il a écrites, non, qui, peu de choses. Mais je voulais montrer toutes les facettes de Fernando Pessoa, et pour ça, il y a cette distance, non, et aussi pour ne me pas perdre complètement. Ouais.
Alors, comment vous avez fait en écrivant? Est-ce qu'il a fallu vous arrêter parfois et faire complètement autre chose? Ou est-ce qu'il a fallu, je ne sais pas, faire relire votre texte au fur et à mesure? Comment vous avez pratiqué pour pouvoir tenir ce volume incroyable de près de 1300 pages qui nous permettent de plonger à la fois vraiment dans la vie de Fernando Pessoa et pas seulement de cet aspect des hétéronymies, mais vraiment de qui il est, lui, avec beaucoup d'humour, avec en même temps une grande justesse, avec une certaine légèreté et beaucoup de profondeur et d'analyse. Comment vous avez fait pendant toutes ces années pour justement garder cette distance?
Oui, il y avait beaucoup de tentatives, et je ratais souvent. Je savais que la biographie serait meilleures que les biographies antérieures. Et ça parce qu'il bien la première biographie est sortie en 1950. Et après, il y avait des autres biographies, même en France. Robert Rochon a créé une biographie publiée en 1996. Et, mais après cette biographie de Rochon, les spécialistes, qui les chercheurs, ont découvert beaucoup des autres choses, et moi aussi, non. Et donc, il y avait beaucoup, on savait beaucoup plus sur la vie de Pessoa. Donc, c'était inévitable que ma biographie, c'était un pas avant. Mais j'avais la peur que la biographie pourrait confirmer l'idée que c'est impossible connaître Fernando Pessoa. Mmh. C'est quelqu'un qui est insaisissable. Ouais, voilà. Et j'ai travaillé pendant plus de 2 ans. Et pendant peut-être les premiers 8 ans, je pensais souvent, mais pourquoi je me suis mis dans ce projet? Et c'était parce que je n'étais pas sûr que je pourrais faire un livre comme je voulais faire. Mais après toutes ces années des contacts, des tentatives, j'ai commencé à voir l'histoire, non? Le livre, je raconte comme une histoire, non?
Ah oui, donc, absolument.
Ouais. Donc ça marche un peu comme un roman. Mais il y a beaucoup de pièces, il faut mettre ensemble ces pièces. Et pendant beaucoup des années, je ne voyais pas très bien, mais comment ça serait, mais enfin, c'est ça y est, non, et que j'ai.
Vous avez trouvé. Et vous avez trouvé pourquoi il vous fallait écrire cela.
Pourquoi il voulut.
Vous. Ah. Vous dites pendant toutes ces années, ouais. Vous êtes demandé en disant, mais pourquoi. Et alors, est-ce que vous avez une réponse à ça?
Oui, je me demandais pourquoi, dans le sens que ce n'était pas une très bonne idée.
J'ai compris, mais malgré tout.
Oui, ah oui. Après toutes ces années, j'ai pensé oui. Alors ça vaut la peine.
Mais parce que comment est-ce que vous êtes tombé amoureux de Fernando Pessoa? Qu'est-ce qui vous bouleverse? Qu'est-ce qui vous touche à ce point que vous passez 12 ans de votre vie?
Bien, ce n'est pas très original, mais c'est pour moi comme pour des autres en lisant ces textes. Et pour moi, ce n'était pas le livre de l'intranquillité, publié, comme j'avais dit, seulement en 1982. Avant ça, pas beaucoup avant, j'avais 24, 25 ans et j'ai lu pour la première fois des poèmes d'Alberto Coelho, qui était, selon sa fiction, un berger. Et illettré, qui voulait voir les choses exactement comme elles sont, sans ajouter rien. Et donc, en cette simplicité, Coelho est comparé à sa poésie, parfois, et à la poésie du bouddhisme zen. Non, bouddhisme zen. Et ça m'a beaucoup frappé, cette simplicité, cette transparence, cette clarté dans les poèmes. Et aussi la poésie de Álvaro de Campos et notamment Bureau de tabac, qui est un poème fameux. Ça m'a bouleversé énormément. Et je commençais à lire des autres choses de Fernando Pessoa. Sans l'ambition de travailler sur Pessoa, ça m'est arrivé plus tard. Ouais.
Et qu'est-ce que vous avez appris vraiment de stupéfiant pendant ces 12 ans qui vous a peut-être, je ne sais pas, fait réfléchir d'une façon inédite?
Peut-être il y a beaucoup de découvertes, mais une chose, on a parlé de la liberté, non, un peu ça, et cette façon de lui être toujours joueur. Mais un joueur, parce qu'il y a un poème fameux, Autopsychographie, non, qui est la poète toujours feigne, non, dit Pessoa. Mais il n'était pas un menteur ou un joueur cynique, non. C'était un joueur, un blagueur, parce qu'il savait que la vérité, comme j'avais dit, qu'on la V majuscule n'existe pas, c'est-à-dire il y a Pessoa précocement avait la conscience de l'idée d'un un moi uni, cohérent, stable, est une fiction, ça n'existe pas. En fait, on est plusieurs êtres, et qu'est-ce qui passe? Qu'on choisit de privilégier un certain côté de nous et de laisser tout le reste à l'ombre ou à l'oubli. Et Pessoa, non, Pessoa, avec ses hétéronymes, il voulait s'exprimer totalement, non?
Totalement,
et,
oui.
Et donc, en revenant à Maria José, à cette seule hétéronyme féminin, là, et le dernier, là, je pense aussi qu'il peut voulait donner expression à son côté féminin, non?
Et ça, vous en parlez dans le livre du côté féminin et de ce qu'on en dit à l'époque, ce qui est un peu effrayant aussi.
Ouais. Une chose en plus qui me frappe, c'est la honnêteté.
Ah oui.
Ouais. Donc il n'a pas peur de.
Oui.
Il ne se préoccupe pas de ce que les gens pensent de lui, de son image. Non, il est toujours honnête, et donc, dans cette façon d'être joueur et comme ça, et là aussi, il est honnête, il est fidèle toujours à ses idées. Et on voit ça beaucoup dans le livre de l'intranquillité, qui c'est une espèce de photographie de l'âme, non?
Ah oui.
Et il révèle tout, non?
Absolument. Mais je croyais que vous alliez me parler aussi du corps, parce que dans votre livre, on découvre que Fernando Pessoa a un corps.
Ouais.
Et jusqu'ici, on ne l'imagine pas tellement se préoccuper de son corps. Et là, dans votre livre, alors, vous revenez sur le fait qu'il n'a pas de relation charnelle avec des femmes, mais il y a des passages très intéressants sur son écriture sur les prostituées, qui, alors vraiment où il écrit de façon très différente. Mais surtout, il y a des passages dans lesquels vous nous apprenez qu'il peut utiliser des appareils de charlatans pour faire de la gymnastique. Et ça, c'est une découverte parce que Pessoa est quand même représenté en général seulement comme un esprit.
Ouais.
Et pas comme un corps.
Ouais, ouais. Oui, Pessoa, très souvent, il y a cette image de Pessoa avec le chapeau, les lunettes.
Très élégant, d'ailleurs,
oui,
vous dites qu'il va s'habiller de la même façon pendant toute sa vie.
Et en fait, il avait un corps et qui c'était plus de cette image stéréotypée et des rapports avec ses amis. Et j'ai beaucoup de plaisir à décrire toutes ces rencontres dans les cafés. Tous les jours, il passait une heure au moins dans un café avec un groupe des amis toujours excentriques comme lui-même. Et le plaisir d'écrire Pessoa dans les bureaux où il travaillait, où il marchait toujours dans la ville basse de Lisbonne. Et Pessoa était un grand écrivain, un grand intellectuel, mais c'est curieux comme il préférait la compagnie de ces personnes plus simples. Et il parle, en fait, dans le livre de l'intranquillité, d'une solidarité avec les employés des restaurants, les couturières et des gens comme ça, très simples, avec qui lui s'identifiait. Je parle de ce rapport, que c'était très important, avec Ophélie Queiroz, ce seul petit ami, qui est un rapport pas consommé, mais qui était très important pour Fernando Pessoa. Ça commence en 1919, Pessoa avait 31 ans et Ophélie 19 ans. Et Pessoa, qui s'y pensait inaimable, était très surpris que cette jeune fille l'aimait. Et c'était elle qui faisait des avances. Ils se sont connus dans un bureau où Pessoa écrivait des lettres pour gagner de l'argent. Et donc, Pessoa, du coup, comprend qu'il lui aussi est aimable. Non, et elle était très, très excitée. Et pendant des mois qu'ils écrivent des lettres et ils se rencontrent, mais après ça suffit pour lui. Il prend une distance. Elle était très frustrée. Et bien après, plus tard, il y avait un deuxième chapitre à cette relation, mais là, je pense qu'il était aussi pour Fernando Pessoa une expérience, dans le sens que Pessoa était un expérimentateur. En fait, le titre de cette biographie en Angleterre est Pessoa, une vie expérimentale. An experimental life. Et Pessoa était un scientiste des émotions, des idées qui était toujours à faire des expériences. Chaque hétéronyme est comme une expérience. Et après, le rapport avec Ophélie aussi. Pas avec mauvaise foi. Pessoa prouvait, il voulait être là et correspondre à l'amour d'Ophélie, mais il ne réussissait pas.
On a atteint ses limites. Et d'ailleurs, dans votre livre, c'est assez délicieux, vous nous donnez des nouvelles d'Ophélie après, donc les lecteurs découvriront. Et ça, c'est un passage parmi d'autres vraiment réjouissant. La dernière question que j'aimerais vous poser, puisque de toute façon, j'ai pris le parti dès le départ de me dire que nous ne pourrions pas parler de tout ce qu'il y a dans ce livre. Mais encore une fois, je salue votre écriture réjouissante et passionnante. Ce livre est vraiment fantastique. C'est la folie, la démence, qui plane sur ce livre, notamment à travers la figure de sa grand-mère paternelle, et qui est là, et vous avez une façon très intéressante de la glisser dans ce livre. Elle est là, on ne sait pas très bien quoi en faire, quoi en penser. Alors, est-ce que vous-même, vous ne savez pas très bien quoi en faire en étudiant Fernando Pessoa ?
Bien, oui, Pessoa avait cette grand-mère qui est devenue folle, et elle était dans des institutions parfois, et Pessoa avait la peur qu'il pourrait hériter cette folie, mais aussi l'espérance qu'il étudiait beaucoup le rapport entre la folie et le génie, et que c'était un thème courant au fin de 19e siècle. Et mais il était toujours, il avait un peur, je pense sincère, de devenir fou comme sa grande mère. Et il était attiré à des gens un peu fous, entre ses amis. Dans les côtes du café, et il y avait deux qui sont entrés plus tard dans les hôpitaux psychiatriques. Et Pessoa pensait qu'il est fou, peut-être que comprenait trop bien la vie, et donc il pensait qu'il pouvait comprendre ou se voir des choses que les autres personnes ne savent pas. Et il cherchait avec ces gens, en observant ces gens peut-être, et de vivre avec ces gens, de saisir quelque chose là, que le monde normal ne t'enseigne pas. Non.
Mais vous, après avoir écrit ce livre, après avoir travaillé toutes ces années, vous pensez qu'il y a de la folie chez Fernando Pessoa ?
Je pense que Pessoa avait une certaine folie contrôlée, et sa folie consistait en ne s'arrêter jamais. Elle était toujours en voyage, sa tête, son cerveau, toujours en marche et en grande vitesse, et que ça peut être une caractéristique de la folie. Mais chez Pessoa, il réussissait à contrôler ça et à mettre, canaliser tout ça dans son œuvre. Et une œuvre assez chaotique, non, quand tous ces textes fragmentaires et inachevés. Mais Pessoa est une figure, je pense, bien contemporain à nous, et je pense qu'aujourd'hui il peut être compris mieux que pendant son époque. Et je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ces problèmes de genre, d'identité, de choses comme ça. Et je pense que Pessoa n'était pas encore très étudié et profité de ce point de vue. Mais en fait, Pessoa est un monde sans fin, non ?
Oui, effectivement, aujourd'hui, le monde a changé. Finalement, ouais. Aujourd'hui, il est incroyablement contemporain, comme vous le dites. Ça, c'est ouais. Sûr. Qu'est-ce que ça a changé pour vous d'avoir écrit ce livre, d'avoir passé ces 12 années ?
Qu'est-ce qui a changé pour moi ? Bien, je me sens très, très léger pour n'avoir plus ce poids, non, en travaillant pendant tellement des années. Non. Donc ça, c'est très bien.
Et du coup, est-ce que vous pensez à Fernando Pessoa tous les jours ?
Comment ?
Est-ce que vous pensez à lui tous les jours ?
Ah, bien, il est toujours là, oui, je confesse. Oui, et certainement, il y a des choses que j'ai intégrées.
En vous
Oui.
De lui
Oui, je pense. Peut-être sa façon d'être très dans la vie, dans le sens que je disais avant, qu'il ressentait tout. Il avait beaucoup d'émotions, hein, mais en même temps, et ça c'est relationné avec son côté joueur, une distance en même temps. Et ça, c'est très, très curieux, un peu ça. Il croyait en tout et en rien. Il était très, très émotif et en même temps froid.
Oui, ça, c'est un autre point dont on n'a pas parlé, mais c'est vraiment un livre dans lequel on passe d'un paradoxe à un autre, à la vitesse de l'éclair,
ouais,
quand même, avec lui, qui est un peu le propre des enfants aussi, qui sont capables d'être très heureux et la minute d'après, très triste. Et il y a vraiment de ça qui ressort dans votre livre, où on est capable d'avoir tout et son contraire d'une minute à l'autre. Mais en même temps, vraiment, comme vous le dites, avec une force de vie puissante. Ouais.
Il y a son hétéronyme plus vif, Álvaro de Campos, oui, qui était moderniste et qui poète des grandes villes, qui célébrait la modernité, les machines, tout ça. Sa devise était sentir tout de toutes les manières possibles. Et c'est bien la devise pour Fernando Pessoa lui-même, de sentir tout intensément, les choses positives, les choses mauvaises. L'important est sentir. Et Pessoa, je disais avant qu'il ne se sacrifiait exactement à cause de son œuvre, mais je pense qu'il s'est sacrifié un peu pour nous. C'est-à-dire, sa vie est un exemple. Hein? Il a écrit sur un bout de papier qu'il a laissé dans sa fameuse malle un bout de papier avec une seule phrase « Soit pluriel comme l'univers ». Et c'était un impératif pour lui-même, « Soit pluriel comme l'univers », mais aussi pour nous. Et je pense qu'en lisant cette biographie, mais c'est encore plus important lire l'œuvre de Fernando Pessoa, le livre d'intranquillité et sa poésie. Je pense qu'on peut apprendre beaucoup de leçons pour notre vie.
Et c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, Richard Zeny.
Merci beaucoup.